Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série concernant le salut. Nous sommes à l'étude numéro 21 et le thème pour aujourd'hui sera « La nouvelle naissance n'est pas un simple sentiment ». Le mot-clé, c'est la repentance. L'apôtre Pierre a dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Personne ne peut se tourner vers Dieu pour se repentir ou même pour croire sans y être aidé par Dieu. C'est Dieu qui nous change. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel mon Dieu, disait le prophète Jérémie. Jérémie chapitre 31, verset 18. Bien des gens considèrent comme démodé le mot « repentance ». Il n'appartient pas au vocabulaire du XXIe siècle. Pourtant, la repentance est un des deux éléments constituant la conversion. Ce mot veut dire tout simplement « reconnaissance de ce que nous sommes » et désir de changer d'attitude envers le péché et envers nous-mêmes, ainsi que envers Dieu. La repentance implique avant tout une reconnaissance de notre péché. Se repentir, c'est déclarer que nous nous reconnaissons comme des pécheurs et que notre péché entraîne notre culpabilité aux yeux de Dieu. Ce genre de culpabilité ne nous pousse pas à nous mépriser nous-mêmes en nous incriminant. C'est nous voir nous-mêmes, tout simplement, comme Dieu nous voit, et c'est dire « Sois apaisé envers moi ». Ô Éternel, moi qui suis un pécheur. Saint Luc chapitre 18, verset 13. Il ne s'agit donc pas non plus de reconnaître le péché collectif de toute la société, bien sûr que non. Il est facile, en effet, d'accuser le gouvernement, l'Église, les institutions en les changeant, en voulant surtout les charger de nos fautes, de notre culpabilité personnelle. Non, non, non. La Sainte Bible enseigne, que lorsque nous avons atteint l'âge de raison, parfois cet âge est fixé selon les pays aux environs de la 10e ou de la 12e année, tout dépend, j'ai dit, les pays. Et Dieu nous considère ainsi comme des adultes responsables, des adultes qui sont capables de choix moraux et spirituels dont nous rendons compte au jour du jugement. Nous aurons donc, n'oubliez jamais, tôt ou tard, à rendre compte. Et chacun de nous est coupable, coupable individuellement de ses fautes devant Dieu. Dès le moment de notre conception, nous héritons d'une tendance vers le péché, mais nous devenons pécheurs par choix et ensuite par notre conduite habituelle. Et c'est pourquoi la Sainte Bible affirme que nous avons tous péché et que nous sommes donc tous privés de la gloire de Dieu. On parle beaucoup ces temps-ci de racines. Les racines des problèmes de l'homme, individuels ou collectifs, se trouvent profondes, se trouvent dans son propre cœur. Voilà où se trouvent ses racines. C'est-à-dire dans notre âme et dans notre esprit. Nous sommes donc une race humaine un peu malade. Ce mal ne peut être guéri que par le sang précieux du Christ qu'il a versé à la croix, enfin dans le but de nous sauver, de nous donner la possibilité du salut. Dans l'Ancien Testament, on sait que du sang a été offert sur des centaines d'autels anticipant sur le jour où Jésus-Christ viendrait pour être l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde, de vous et de moi. Saint Jean, chapitre 1, verset 29. Il est devenu ainsi le bouc émissaire, on peut dire le bouc émissaire cosmique pour le monde entier, car tous nos péchés ont été transférés sur Christ. Et voilà comment Dieu peut nous pardonner. C'est aussi pour cela qu'il peut nous infuser une nouvelle vie, tout simplement par la régénération ou la nouvelle naissance. La repentance entraîne donc un changement d'orientation, un abandon délibéré du péché. S'il s'agissait de se repentir sans le secours de Dieu, ce serait à désespérer, car la Sainte Bible montre que nous sommes morts, morts dans nos fautes et dans nos péchés. Un mort ne peut agir. Dieu doit donc nous aider même dans notre acte de repentance. Parfois la repentance comprend une restitution. Par exemple, si nous avons volé, menti terriblement, triché, fraudé ou blessé quelqu'un, nous devons réparer, évidemment dans la mesure du possible. Chers amis, quand Tim Vaus, le gangster notoire, quand il est venu à Jésus-Christ, il a passé de nombreuses semaines, paraît-il, selon son témoignage, à retrouver la trace des gens qu'il avait insultés, qu'il avait même attaqués et volés. Et il a restitué tout ce qu'il a pu et il présenta ses excuses à tous ceux qu'il avait offensé. Eh bien, ce type de restitution est assez rare aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui, notre conscience est devenue très élastique. Mais l'Écriture sainte nous oblige à faire cela à coup sûr. C'est le complément nécessaire de la repentance. Il montre aux gens lésés et au monde que nous sommes sincères et que nous sommes prêts à payer le prix. Quand nos sentiments s'opposent à notre volonté de nous détourner du mal, l'hypocrisie entre là tout à coup dans notre vie et les doutes prolifèrent. La Sainte Bible contient bien des choses difficiles à croire. Et quand nous devenons une nouvelle créature dans le Christ, nous nous trouvons propulsés dans un monde joyeux, extraordinaire, exaltant, et cette expérience nous porte un certain temps. Mais voilà, une fois ces émotions un peu apaisées, alors des doutes peuvent nous assaillir. d'abord modérément, et puis ensuite plus massivement. Et nous nous posons beaucoup de questions. Comment puis-je offrir ma vie à Dieu s'il me demande ensuite, par exemple, de faire des choses que je n'aime surtout pas? Un jour, une très belle jeune fille, très riche, une des reines de sa ville, s'est convertie. Quand elle en a parlé à une de ses amies, celle-ci lui a dit « Oh là là, Dorothée, que vas-tu faire maintenant? Vas-tu partir en Afrique comme missionnaire ?» Dorothée, elle est devenue très émue et elle lui a répondu « Eh bien, si c'est la volonté de Dieu, eh bien oui, je m'y soumettrai et j'irai. » Il n'est donc pas facile toujours d'agir selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas toujours facile de sentir un ministère, quelque chose pour servir le Seigneur à des endroits qui nous font plutôt peur. Une vieille dame qui est l'auteur d'un livre chrétien devenu un classique, elle raconte l'histoire d'un jeune homme. Ce jeune homme était d'une brillante intelligence qui trouvait très difficile de soumettre à Dieu sa volonté lors de son expérience toute nouvelle du christianisme. Il était un grand sceptique et il avait le sentiment que rien n'était vraiment réel. On lui donna ce conseil: la volonté de l'homme est en réalité son moi profond. Ce que sa volonté fait, il le fait. Ce qu'il vous appartient de faire, c'est de confier votre volonté, oui, votre volonté, à Dieu, en prenant la décision d'accepter de croire tout ce qu'il dit dans la Sainte Bible, parce qu'il l'a dit, et de ne pas tenir compte de vos sentiments propres qui peuvent ne pas correspondre du tout à la Sainte Parole de Dieu. Dieu, tôt ou tard, répondra en se révélant à cette foi. Le jeune homme réfléchit un moment, puis ensuite déclara solennellement: « Je comprends et je ferai ce que vous me dites. Je ne peux pas maîtriser mes sentiments, mais je peux maîtriser ma volonté. Ainsi la nouvelle vie me paraît possible s'il ne s'agit que d'engager ma volonté. Ma volonté, je peux la donner à Dieu, et je le ferai. » Chers amis, la réponse biblique est le combustible utilisé pour propulser la fusée de notre vie si Dieu la dirige. Tant que nous ne l'utilisons pas, nous sommes cloués au sol par notre égoïsme, notre orgueil, notre culpabilité et tout ce qui nous trouble. Les jeunes en particulier sont souvent enchaînés par leur irrésolution, par leurs inquiétudes et même par leur culpabilité. Beaucoup de personnes âgées, ces personnes pensent à la vieillesse, évidemment. Et s'ils ne sont pas tout à fait insensés, également à la mort, et souvent avec angoisse, car ils s'en rendent compte, riches ou pas, que tôt ou tard, il leur sera demandé de quitter ce monde. La véritable repentance brise les chaînes et permet l'envol. Ainsi, la repentance est d'abord une absolue nécessité si nous voulons naître de nouveau. C'est avant tout le simple fait, le fait d'admettre ce que nous sommes devant Dieu, c'est-à-dire des pécheurs sommes-nous, des pécheurs privés de la gloire de Dieu. Et deuxièmement, voyez-vous, la repentance implique un regret sincère, un regret tout à fait sincère d'avoir péché. Et troisièmement, elle exige notre volonté de nous détourner du mal et du péché. Bien sûr, si nous considérons que nous ne sommes pas des pécheurs et qu'il n'y a pas de Dieu, que c'est un mythe, alors évidemment, ça ne sera pas possible. Alors le mot-clé dans tout cela, c'est la foi. Car en étudiant la conversion, nous avons vu qu'elle compte un aspect de se détourner, je dois me détourner de ça, de tout ce qui est mon ancienne vie, et cela représente la repentance, de me tourner et de me détourner surtout, de faire demi-tour à mon ancienne vie, ça représente la repentance. Mais elle a aussi un aspect, c'est se tourner vers, et ça, c'est la foi, de se tourner vers, et vous l'avez compris, vers Dieu. Donc la foi est d'abord et avant tout la profonde croyance dans mon cœur, mon esprit et mon âme. C'est de croire que Jésus-Christ est ce qu'il a prétendu être. Ensuite, c'est de croire qu'il peut faire ce qu'il a promis de faire, par exemple, pardonner mon péché et entrer dans ma vie. Troisièmement, c'est faire confiance, c'est de s'engager, c'est ouvrir la porte et c'est donner son cœur. Dans le Nouveau Testament, ce sont des mots grecs pratiquement interchangeables qui expriment les notions de foi, de croyance et de confiance. Mettre sa foi dans le Christ, c'est évidemment faire un choix. La Sainte Bible dit, celui qui croit en lui, en Jésus-Christ, n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est hélas déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Saint Jean, chapitre 3, verset 18. N'hésitez pas de noter certaines indications bibliques parce que c'est très utile, un, de vérifier si on vous dit la vérité, deuxièmement, pour mieux comprendre ce que vous entendez. Voyez-vous, la personne qui croit n'est donc pas jugée, mais celui qui refuse, on peut dire ostensiblement, qui refuse de croire, il est qu'il le veut ou pas, qu'il le veuille ou pas, il est déjà jugé. Donc c'est le choix du croyant qui détermine tout simplement sa condamnation ou son acquittement. Ainsi nous voyons l'importance de la foi. La Sainte Bible dit que sans la foi, il est tout simplement impossible de plaire à Dieu. Mais que signifie avoir la foi ? Eh bien, c'est de croire. Quand vous avez rencontré votre future fiancée, qui devient un peu plus tard votre épouse, vous avez et vous portez vers elle un amour et une foi totale. Vous savez que c'est elle qui sera votre bonheur futur. C'est donc se confier, c'est de se soumettre au Christ. Croire, c'est accepter l'offre de Dieu, c'est d'accepter sa miséricorde, son amour et son pardon. Dieu a pris l'initiative et il a fait tout pour rendre possible cette offre du salut. Quand le Christ, en croix, a baissé la tête et il s'est écrié « Tout est accompli ». Là, il proclamait l'achèvement du plan du salut. Saint Jean, chapitre 19, verset 30. Jésus-Christ a voulu proclamer que désormais tout le nécessaire était fait pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu et qu'il soit sauvé. Il faut donc croire en Jésus-Christ. Il faut se soumettre à lui, se confier à lui pour être sauvé. Bien sûr, si nous sommes trop orgueilleux, trop imbus de nous-mêmes, ça deviendra très difficile. Croire, ce n'est pas simplement éprouver un sentiment, mais c'est avoir l'assurance d'être sauvé. Vous pouvez fort bien avoir envie de dire « on vous » en regardant dans un miroir. Mais, voyons, je ne sens pas que je suis sauvé maintenant que je crois. Et je n'éprouve pas la sensation du pardon. Oui, ça arrive souvent. Ce que vous ressentez, ça n'importe pas grand-chose. Ça importe même peu. Mais ce qui compte, c'est la promesse du Christ. C'est pas vos sentiments. La promesse de Christ qui ne peut mentir. Croire, c'est délibérément agir en confiant sa vie à Jésus-Christ. Ce n'est pas s'accrocher à une idée très vague. C'est par un acte volontaire de se confier à Jésus-Christ. Dieu fait homme. Jésus-Christ, c'est Dieu qui a été fait homme pour un jour mourir à la croix, versant son sang précieux pour nous sauver. Et le Nouveau Testament n'utilise jamais les mots « foi » ou « croyance » au pluriel, massivement. La foi chrétienne, elle ne consiste pas dans l'acceptation d'une grande liste d'interdictions et d'obligations. La foi, c'est la consécration de notre esprit, de mon esprit et de notre cœur à la personne de Jésus-Christ. Cela ne signifie pas que désormais, crédule, nous croirons simplement tout et n'importe quoi. Non, non, non. C'est la confiance en une personne et pas n'importe laquelle. Et cette personne, ce n'est ni un gourou, ni un chaman. Cette personne est le Christ révélé dans la Sainte Bible. car le gourou, le chaman et tous les autres meurent tôt ou tard. Jésus-Christ, il est ressuscité, c'est le seul qui est ressuscité. La foi n'est donc pas anti-intellectuelle. La foi repose sur un a priori logique, croire que la sagesse supérieure de Dieu le rend apte à nous sauver. Francis Schaeffer, un philosophe chrétien qui résidait en Suisse, ne montre pas seulement que la foi est logique, mais encore que le refus de la foi est illogique. Il écrit par exemple que l'homme est fait à l'image de Dieu, donc étant donné le fait que Dieu est un Dieu personnel, le fossé ne se trouve pas entre l'homme et Dieu, mais entre l'homme et tout le reste. Mais d'autre part, étant donné le fait que Dieu est infini, infini en ce domaine, eh bien l'homme est séparé, il est séparé de Dieu, que l'atome ou tout autre objet fini de l'univers. Nous avons là donc la raison du caractère paradoxal et unique de l'homme qui est à la fois fini et personnel. Ce n'est pas la meilleure solution du problème de l'existence, mais c'est la seule. Et c'est pour cela que nous pouvons être chrétiens en conservant une pleine intégrité intellectuelle. La seule réponse pour ce qui existe, c'est que lui, le Dieu infini personnel, est réellement là. La foi dans le Christ est donc un acte, n'oubliez jamais, c'est un acte volontaire. Personne ne peut être contraint à mettre sa confiance en Jésus-Christ. Dieu ne s'impose pas à nous par la force. Il n'use pas non plus de séduction ou de ruse pour nous atteindre. Le Saint-Esprit fait tout son possible pour vous troubler, vous attirer et pour vous aimer. Mais tout dépend évidemment de votre décision personnelle. Dieu n'a pas seulement donné son Fils sur la croix pour que son plan de salut s'accomplisse, mais il a aussi donné sa loi exprimée dans les 10 commandements et dans le sermon sur la montagne, afin de nous démontrer que nous avons besoin d'être pardonnés. Il donne le Saint-Esprit qui nous attire à la croix. Mais si Dieu fait tellement de choses, il nous en laisse faire une seule. C'est notre choix personnel. Donc c'est à nous de décider si nous acceptons le pardon gratuit de Dieu ou bien si nous continuons dans notre perdition. Donc la foi engage notre personne tout entière. Dans son livre Knowing God, connaître Dieu, le professeur Ish Packer ou Packer, il écrit « Connaître Dieu, c'est une affaire d'engagement personnel. » Je répète, connaître Dieu est une affaire d'engagement personnel. Je m'engage personnellement, c'est un engagement de notre intelligence, de notre volonté et de nos sentiments. Ce ne pourrait être autrement. Cela doit être une véritable relation personnelle. La foi, c'est autre chose qu'une simple réaction émotionnelle ou qu'une conception intellectuelle ou qu'une décision volontaire. Mais la foi comprend tout cela en même temps car elle engage notre intelligence, notre volonté et nos émotions. Nous avons vu que la conversion, qu'elle se produit quand nous nous repentons et que nous faisons confiance au Christ. Mais quelle étape franchissons-nous quand nous nous engageons dans ce processus de conversion? Combien de temps prend-il? Devons-nous passer par des phases dramatiques ou sensationnelles? Je répondrai, je n'en sais vraiment presque rien. Voyez-vous, si tous les hommes avaient des réactions identiques, eh bien, nous pourrions par exemple appliquer une sorte de formule chimique dont les résultats seraient prouvés. Or ici, le mot-clé, c'est la diversité. Nous pouvons le comprendre clairement si nous réfléchissons un moment à la personne de Dieu. D'abord, c'est Dieu lui-même qui est au centre de l'action. C'est lui qui nous convertit quand nous nous repentons et que nous croyons dans le Christ. Le salut vient donc de notre Dieu. Secondement, l'acte de Dieu commence bien avant ce point final. Nous avons déjà vu comment Dieu agit en nous avant même notre conversion. Il nous prépare à la repentance en exerçant par le Saint-Esprit une action de conviction en nous. Cette conviction nous pousse à souhaiter d'abandonner notre péché. Il nous prépare ainsi à l'acte de foi en nous montrant la grandeur de Jésus-Christ qui pardonne. La durée et la quantité des émotions ressenties au cours de ce processus de conversion dépendent de la nature de chacun de nous. Dieu nous traite chacun différemment. Pourquoi? Parce que nous sommes très différents les uns des autres. Il adapte exactement son mode d'action à notre personnalité. Il nous prend tel que nous sommes. Mais le but, c'est le même pour tous, c'est la nouvelle naissance. Pour nous y conduire, il sera aussi attentif qu'un berger l'est envers ses brebis. Il connaît chacun par son nom. Nous pourrions raconter les expériences de bien des gens qui nous connaissent et que nous connaissons. Mais si vous n'êtes pas né de nouveau, le fait que vous écoutez maintenant ce CD n'est pas, on peut dire, simplement un hasard. Non. Non, non, ce n'est pas par hasard. Car cela fait partie du processus que Dieu utilise spécialement pour vous afin de vous permettre de prendre la bonne décision que vous pouvez prendre librement. Dieu connaît. Il connaît les besoins de votre cœur. Voyez-vous, quand nous regardons dans la Sainte Bible comment Dieu agit dans la vie, hein, dans la vie des hommes et des femmes, par exemple avant leur conversion, eh bien nous constatons qu'il comprend très bien la personnalité de chacun de nous. Dans le premier chapitre de l'Évangile selon saint Jean, par exemple, là nous voyons Jésus-Christ parler à plusieurs personnes non encore converties. Quand André est un ami, quand ils sont venus pour le trouver, Jésus-Christ les questionna. Qui cherchez-vous ? C'est écrit dans saint Jean, chapitre 1, verset 38. Et Jésus les invita à venir vivre une journée avec lui. André avait besoin, il avait besoin de conversation dans le calme. C'est comme cela qu'il a pu comprendre son état de péché et la nécessité de se confier à Jésus-Christ. André a conduit ensuite vers Jésus son frère très passionné, Simon. Jésus le traita totalement autrement. Jésus le regarda dans les yeux et lui dit avec autorité, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras désormais Képhas, que nous traduisons par Pierre. » Jésus manifesta un peu de sa majesté quand il dit à ce bouillant jeune homme et à ses versatiles qu'il allait acquérir au contact du maître la fermeté du roc. Notez saint Jean, chapitre 1, verset 42. Pour se convertir, l'apôtre Pierre avait besoin de comprendre que son péché était sa trop grande assurance en lui-même et surtout sa fierté, ce qui le rendait tellement changeant. Il devait donc se confier dans le Christ capable de le transformer. Le lendemain, Jésus rencontra Philippe et il le traita tout autrement. Il lui dit simplement « Suis-moi ». Différent d'André ou de Pierre, Philippe avait besoin d'entendre un ordre précis. Philippe, à son tour, amena Nathanaël, un jeune homme très pieux qui cherchait à mieux connaître Dieu. Jésus s'adapta, il s'adapta à la personnalité de ce mystique. Saint Jean, chapitre 1, verset 51. Et il lui dit, en vérité, je te le dis, tu verras les cieux ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. André, Pierre, Philippe et Nathanaël étaient donc tous différents. Jésus les a traités différemment. Ils avaient tous besoin d'être en relation personnelle avec Jésus. C'est essentiellement ce que est et que veut dire la nouvelle naissance. Plusieurs d'entre eux n'ont compris que peu à peu ce qui leur arrivait. Cela prit parfois des mois pendant lesquels Jésus les instruisit. C'est pour cela que je supplie tous les nouveaux convertis de consacrer beaucoup de temps à l'étude de la Sainte Bible, pas seulement à leurs jeux électroniques, et à la prière avant de parler en public de leur expérience. L'Écriture sainte, d'ailleurs, avertit les novices involontairement dans nos évangélisations. Nous avons souvent été capables de légèreté dans ce domaine en demandant à des jeunes convertis de rendre témoignage alors qu'ils n'étaient encore pas affermis dans la grâce et dans la connaissance du Christ. De longues années d'expérience nous ont rendu beaucoup plus prudents. Après sa conversion, Saul de Tarse étudia pendant 3 ans, pendant 40 ans, et rappelez-vous, Dieu a formé Moïse au fond du désert, et cela avant que ce dernier, donc Moïse, ne paraisse en public. Aujourd'hui, on nous parle souvent d'une personne qui vient de sortir de prison et qui, au bout de quelques jours, se produit sur une estrade devant la foule pour lui rendre témoignage de sa conversion. Parfois, de tels errements se terminent assez tragiquement, car le soi-disant nouveau converti n'était pas vraiment né de nouveau. Il a peut-être confessé le Christ avec sa bouche, mais n'a pas voulu lui confier sa vie en payant le prix. Un jeune homme semblait avoir été magnifiquement converti lors d'une évangélisation. Et je pense que c'était vrai. Il avait passé pas mal de temps à se débarrasser de l'habitude de se droguer et il avait une assez bonne connaissance de la Bible. Nous l'avons pressé d'entrer dans une école biblique et il a fait 1 an d'études. Son histoire était tellement sensationnelle que de nombreuses églises l'invitèrent chez elles pour qu'il puisse raconter son expérience. Il s'est même marié avec une chrétienne et a eu, je crois, 2 enfants. Rapidement, son succès lui monta à la tête et il a fait une chute terrible en reprenant toutes ses mauvaises habitudes et en quittant même sa femme et ses enfants. Je suis heureux de pouvoir dire qu'il est revenu à Dieu comme l'enfant prodigue et qu'il a confessé ses fautes et qu'il a repris sa femme et ses enfants et un travail pour subvenir à sa famille, sa responsabilité, en ayant compris qu'il était responsable pour au moins ses enfants et sa femme, qu'il était un père et que de ce fait, il devait se comporter en véritable chrétien envers sa famille. La durée et le degré d'émotion que comporte le processus aboutissant à la conversion sont aussi très variables. Certains, mais pas tous, ressentent une crise émotionnelle dont les symptômes ressemblent à ceux d'une crise mentale. Ces personnes pleurent abondamment et ont des sensations fortes. Le Saint-Esprit les a convaincus de leur péché. C'est leur réaction personnelle à l'acte de Dieu. Mais d'autres ont une forme d'expérience émotionnelle différente. Le soir où je me suis donné au Christ, plusieurs personnes sanglotaient autour de moi, Or mes yeux sont restés secs et je me suis mis à craindre que mon engagement était peut-être pas tellement valable. Mais j'ai appris depuis lors que beaucoup de gens connaissent tes conversions très calmes et que le processus peut en être bref. Les tempéraments de quelqu'un de Norvège ou de Finlande sont pas les mêmes que les tempéraments du Brésil, du Mexique. Par exemple, une personne en lisant sa Bible ou en chantant un cantique tombe tout à coup sur un texte et il ou elle le prend pour elle. Et elle l'accepte sans attendre une minute. Ou bien, c'est en entendant tout simplement un sermon ou un message que la personne, sans conflit intérieur et sans pression émotionnelle, accepte ce qui est dit et croit au Christ. La conversion simple et calme de ces personnes est tout aussi vrai que les conversions tragiques et explosives d'une Brésilienne. Le livre des Actes des Apôtres raconte au chapitre 16 deux conversions très contrastées. Lydie est une femme d'affaires habitant Philippe en Macédoine. Elle avait un grand intérêt pour les questions religieuses au point de passer du temps à prier au bord d'une rivière et d'écouter la prédication de l'apôtre Paul. Dieu ouvrit son cœur au message de l'Évangile et elle l'accepta. Elle se convertit donc sans fanfare et sans énormément d'émotions. Dans cette même ville se trouvait également un gardien de prison. L'apôtre Paul, comme vous le savez, surtout ceux qui lisent régulièrement leur Bible, l'apôtre Paul a été enfermé dans un de ses cachots. Et voilà que survint un terrible tremblement de terre, et le geôlier, pris de panique, quand les portes s'ouvrirent et les murs tremblaient, le geôlier pensa que les détenus s'étaient enfuis. Et croyez-moi, un tel geôlier, en ce temps-là, des Romains, il allait passer un mauvais quart d'heure, c'est-à-dire il allait être décapité. Alors, ce geôlier, voyant qu'il était en quelque sorte perdu, alla se tuer, se suicider. Quand l'apôtre Paul l'interpella et lui cria : « Mais ne te fais pas de mal, car nous sommes tous là. » Notez Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 28. Donc, le geôlier n'en crut pas ses oreilles. Oui, pourquoi les prisonniers n'ont-ils pas profité de l'aubaine ? Et tremblant des pieds à la tête, il fit apporter de la lumière, il regarda Paul et Silas, ses prisonniers, et il tomba à leurs pieds et dit : « Que dois-je faire pour être sauvé ? » « What must I do to be saved ? » « Was soll ich machen, um neu geboren zu werden ?» Et cet homme se convertit à cet instant même en pleine prison. Jésus compare l'expérience de la conversion à l'action du vent. Oui, le vent souffle où il veut. et tu en entends le bruit, d'accord ? Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Et il en est ainsi de tout homme qui est né d'Esprit Saint. Notez Saint Jean, chapitre 3, verset 8. Le vent peut être un souffle léger, le vent peut être une douce brise ou même un typhon dévastateur. Ainsi en est-il de notre conversion. Ce peut être une expérience calme et douce, ou cela peut être une tornade transformant le paysage. Existe-t-il un instant précis, un jour, une heure ou une année dont une personne peut dire « c'est à ce moment-là que je suis né de nouveau ». Je connais bien des gens qui peuvent dater avec certitude de leur nouvelle naissance et même peuvent célébrer leur anniversaire spirituel. Mais je connais également des tas de gens qui marchent en communion avec le Christ, mais qui ignorent la date exacte de leur premier engagement envers Dieu. Cela existe. Ils n'ont même pas le souvenir d'un temps où ils ne connaissaient pas et qu'ils n'aimaient pas le Seigneur. Donc, voyez-vous, tout cela est complexe. La foi est donc un acte de volonté, un jour ou l'autre. Et que le souvenir en soit resté ou non, il est un moment précis dans la vie d'un homme, d'une femme, où l'on passe la ligne frontière séparant la mort de la vie. J'étais avant un mort vivant. Mon esprit était déjà mort, mais je suis devenu vivant, corps, âme et esprit, pour l'éternité. Notons que la question importante n'est pas le quand, mais le si. Je ne vous demande pas quand vous êtes né de nouveau, mais je vous demande si vous êtes né de nouveau. Nous ne savons pas à quel moment précis nous franchissons la frontière entre la nuit et le jour, mais nous savons s'il fait jour. Voilà la grande question posée à ceux qui n'ont pas le souvenir précis d'un acte conscient de leur volonté par laquelle ou par lequel ils se sont confiés entièrement au Christ. Chers amis, vivez-vous maintenant en plein jour au contact du Christ? Alors, comment recevoir le Christ? Je ne crois pas que tout puisse se réduire à une petite formule stricte ou à une recette de cuisine divine ayant un label de garantie. Cela étant dit, je crois possible de faciliter la marche de ceux qui veulent recevoir le Christ en leur donnant tout simplement quelques conseils. Vous avez vu dans ce qui précède la nécessité, la direction et les étapes de la nouvelle naissance. Vous en avez peut-être tiré votre conclusion. Toutefois, j'aimerais résumer ce que vous devez faire. D'abord, vous devez reconnaître ce que Dieu a fait. Il vous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique pour qu'il soit cloué sur la croix. Dans le texte suivant, remplacez simplement par votre propre nom les mots « monde » et « quiconque ». Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Saint Jean, chapitre 3, verset 16. Donc, le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Galates, chapitre 2, verset 20. Deuxièmement, vous devez vous repentir de vos péchés. Jésus a dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Notez Saint Luc, chapitre 13, verset 3. Il a dit encore, repentez-vous et croyez. Saint Marc, chapitre 1, verset 15. Les regrets ne suffisent pas. Je peux regretter d'avoir maltraité, par exemple, ma femme ou mes enfants. Mais ça ne changera pas grand-chose. Par contre, la repentance, le pardon, exige un demi-tour qui nous fait renoncer au péché. Troisièmement, vous devez recevoir Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur personnel. Car à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son saint nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Notez Saint Jean chapitre 1 verset 12. Cela vous demande de cesser de vouloir vous sauver par vos propres efforts et ainsi d'accepter le Christ comme le seul Seigneur et le seul Sauveur. Faites-lui donc confiance, une confiance totale et surtout sans réserve. Quatrièmement, confessez le Christ publiquement. Évidemment, ce n'est pas facile, surtout de nos jours. Or, cette proclamation est le signe de votre réelle conversion. Ça ne veut pas dire que vous devez aller par exemple, au 12e étage d'un immeuble et avec un appareil électronique qui porte la voix à des kilomètres, crier tout fort que vous venez d'accepter Jésus-Christ. Jésus a dit, quiconque me confessera devant les hommes, eh bien je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Notez Saint Matthieu, chapitre 10, verset 32. Il est extrêmement important pour vous de dire à quelqu'un d'autre, le plus tôt possible, que vous venez de recevoir Jésus-Christ. Ça n'a rien à faire avec un porte-voix pour crier tout fort dans une place publique. Simplement le dire à vos proches, à votre famille. Et cela vous donnera la force et le courage pour votre témoignage ultérieur. Faites-le maintenant, car maintenant, c'est le moment favorable. Oui, maintenant, c'est le jour du salut. Notez 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Si vous êtes prêt à vous repentir de vos péchés et à recevoir Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur, vous pouvez le faire maintenant. En ce moment même, vous pouvez courber votre tête. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez. Ou vous pouvez vous agenouiller, vous n'êtes pas obligé non plus. Et simplement de prononcer, et ça vous pouvez le faire, de prononcer cette brève prière, debout, à genoux, assis, n'importe. Et cette prière, je l'ai utilisée pour aider bien des personnes et vous pouvez vous-même maintenant répéter simplement après moi la prière suivante. Prions. Ô Dieu, mon Père céleste, je reconnais avoir péché contre toi. Je regrette mes péchés. Je désire me détourner de mes péchés. Je reçois Jésus-Christ dans mon cœur et je le reconnais comme mon Sauveur. Je le confesse comme mon Seigneur maintenant. Et je veux vivre pour lui et je veux le servir selon mes possibilités à partir de maintenant. Et je dis cela, cette prière, dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, pour terminer, si vous prenez la décision de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous devenez un enfant de Dieu dans le cœur duquel le Christ veut résider pour le restant de votre vie et même pour l'éternité. Vous ne mesurez pas la certitude de votre salut à l'intensité de vos sentiments. Ça peut être tout calme, comme ça peut être comme une tornade. Faites donc confiance à Dieu, car il tient parole. Vous êtes maintenant né de nouveau, et vous êtes vivant, écoutez bien, pour l'éternité. Amen. Chers amis, d'habitude, ma voix, à mon grand âge, ne tient pas le coup aussi longtemps et j'arrive parfois presque plus parler déjà après un quart d'heure. Mais le Seigneur fait des miracles, même à un grand âge. Et il a permis que je puisse vous donner ce message tout du long avec une voix audible, je l'espère, jusqu'au bout. Que le Seigneur vous bénisse, car il vous aime. Il vous aime au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Je vous reverrai, enfin plutôt, je vous reparlerai, Dieu voulant, demain matin à nouveau, pour la suite de cette série. Au revoir.